8h48, la revue de presse, Claude Ascolovitch.
France Inter, le 7-9.
Et on parle, Claude, d'un penseur mondial.
Qui, avec sa silhouette de vegan et son crâne dégarni et l'effroi de constatation qu'il pose sur notre époque où par la technologie, on peut comme jamais dans l'histoire contrôler des populations entières, apparaît comme un prophète contemporain. Revoilà Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, que Libération est allé rencontrer à Tel Aviv, dans son penthouse high-tech, baptisé Sapienship, comme un vaisseau spatial, où il mûrit ses analyses sur notre destruction à venir. Harari, dont Albin Michel, c'est le prétexte du portrait, publie une version de Sapiens en bande dessinée. Mais l'intérêt du portrait se trouve dans l'atmosphère agacée qu'installe son auteur, Guillaume Gendron, correspondant en Israël de Libération. Gendron n'aime pas Harari, il n'aime pas ses airs de start-up incarné, il n'aime pas sa tiédeur, il le trouve timoré, sans colère ni solution. Harari décrit le chaos, mais pour l'enrayer ne propose, je cite, que des banalités peu convaincantes sur le besoin de coopération mondiale et un vague plaidoyer pour le libéralisme. En février dernier, rappelle Gendron, le New Yorker avait publié un splendide portrait de Harari où l'on voyait cet adepte de la méditation nager la brasse dans une piscine en forme de goutte tout en écoutant un livre audio sur la révolution cubaine. Harari semblait dans le New Yorker un nihiliste zen, un gourou de l'inaction. Gendron, pour clouer le cercueil, le compare à un personnage de bande dessinée, un physicien qui regarderait l'humanité s'éteindre, assis tranquillement en tailleur sur la planète Mars. Mais au-delà de ces taquineries sur un adepte de la méditation, il y a cette question. Harari exaspère de ne pas assonner de solution. Lui, il dit qu'après le communisme, le nazisme, les guerres mondiales, on ne peut plus tenter des solutions radicales. Il plaide pour éviter notre fin en faveur d'un compromis global. Mais l'homme peut-il le compromis ? L'Obs, cette semaine, interroge un philosophe français spécialiste de Nietzsche, Dorian Astor. Il défend la beauté du doute et dénonce l'envahissement des certitudes. Astor explique que ce désir de certitude n'est pas mauvais en soi. Il trace un chemin. Voici la formule de notre bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but, écrivait non pas Montebourg, mais Nietzsche. Mais à un moment, la certitude transmute en fanatisme et nous n'entendons plus rien. Je pense à cet équilibre que nous devons trouver en lisant dans nos journées l'affrontement du patient Mr. Biden et du paniqué Mr. Trump, mais aussi nos propres théâtres. Dans son éditorial excellent comme à l'habitude des Échos, Cécile Cornudet explique comment à l'Élysée, on a décidé délibérément de faire du Covid un terrain d'affrontement avec l'opposition, car le président Macron veut incarner la protection de la vie. Est-on plus certain de sa vérité ?
Et l'on parle de la maladie dans Paris Match.
Dans le reportage, il y a le plus terrifiant que vous pourrez lire sous des faux airs de banalité. Le journal nous présente des jeunes gens que la maladie a frappés, qui sont beaux et habités par la mort qui les a frôlés. Vous découvrez Elia Fontaine, lycéenne belge de 18 ans, sportive, basketteuse, désormais amputée de la jambe droite. Le virus ne lui donnait pas de fièvre, il l'avait gelé. Il ne s'attaquait pas à ses poumons, il rongeait son cœur, on ne sait pas pourquoi, et l'on ne sait pas pourquoi non plus, pourquoi pendant ces 3 semaines de coma artificiel, Elia a grandi de 6 cm. Le virus rentinane toutes nos certitudes. Le Parisien est atroce ce matin, qui raconte la bêtise d'une collégienne de 15 ans, mise en examen pour apologie du terrorisme, pour avoir justifié dans sa cour de récréation le supplice de Samuel Paty. La gamine, qui ne s'informe que par Snapchat, était de mauvaise humeur ce jour-là. Elle était arrivée en retard au collège et avait été exclue d'un cours de musique. Dans le même Parisien, je lis les dépositions des adolescents de Conflans qui, contre de l'argent, désignèrent Samuel Paty à son assassin. Il raconte une journée de frime et de vertige irréel, la sensation qu'un drame va venir. Le jeune M, 14 ans, a vu le meurtre. Il a vu un corps vidé de son sang. Il voudrait en finir avec ses larmes et cette histoire. C'est pourtant arrivé. Sur le site de La Vie est interrogé un homme de certitude religieuse, Fater Kimouche, fondateur d'un site internet musulman nommé Alcance, qui exerce une influence forte sur les religieuses engagées. Après l'attentat de la basilique de Nice, Fater Kimouche a envoyé des messages de réconfort à des diocèses en France qui lui ont répondu, et le voilà interlocuteur d'un journal chrétien. Il dit que c'est au nom de sa foi, parce que Dieu et le prophète l'ordonnent, qu'il condamne le terrorisme. Il en appelle au catéchisme pour les dialogues et une vertu grecque, l'aïdos, la pudeur.
Et on parle enfin, Claude, rapidement d'une femme en colère.
Qui, Nicolas, entra dans l'histoire par une méchante action. Le site de l'Obs raconte Valérie Solanas, qui le 3 juin 1968 tire au pistolet sur Andy Warhol, qui lui avait promis de monter une pièce de théâtre autobiographique, mais avait égaré le texte. Warhol survécut. Mais Solanas fuma ce qu'il avait agressé par son geste, devint une icône du féminisme radical. On publia ses textes, un manifeste où l'on appelait à supprimer le sexe masculin. Elle était radicale, parodique, provocatrice. Elle était aussi schizophrène et pensait qu'elle avait un émetteur caché dans l'utérus. Elle fut internée, mourut jeune, mais son souvenir demeure et son aura. Et lige dans l'Obs, elle nous enseigne que les êtres de folie peuvent nous faire avancer. Nous en discuterons sans trembler de certitude.
Merci Claude pour cette revue de presse.